Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous allons parler d'un livre paru à la Découverte récemment, un livre qui fait 380 pages, qui est dû à Fabien Truon et Jérôme Truc, Grands ensembles, violence, solidarité et ressentiment dans les quartiers populaires. Nous sommes en présence de Jérôme Truc. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, il y a un point commun entre votre livre et Aligre FM actuellement. Aligre FM est dans le 13e et la cité de la Grande Borne à Grigny a été bâtie pour accueillir les mal logés de l'insalubre 13e arrondissement de Paris. Des immigrés pour la plupart, chassés par la rénovation urbaine. Une expulsion si brutale que des graffitis rénovation, déportation apparaissent alors sur les murs de la capitale. J'en parlais à quelqu'un qui a fait la gueule parce que le mot déportation en ce moment a une résonance dans l'actualité très étrange. Les travaux démarrent en octobre 1967 et s'achèvent en 1971. Ils sont réalisés par l'entreprise Bouygues, choisie sans appel à la concurrence sous la houlette de l'architecte Émile Ayot. Et il y a à propos d'Émile Ayot, c'est lui qui a construit la tour Nuage à Nanterre. Donc nous avons un autre fait divers en dessous d'un bâtiment d'Émile Ayot. On voit où on est. Tout a été fait pour réduire les coûts. Les façades, en particulier, sont réalisées à partir des panneaux préfabriqués fournis par Costamagna. Donc c'est ce qu'on appelle le chemin de grue. On met des rails au début du chantier et tout se déplace sur des rails. Donc c'est vraiment une division des tâches, un taylorisme. Et on travaille avec de la colle et non pas du ciment. Bouygues économise ainsi plusieurs milliers de mètres cubes de béton armé. Mais nombre d'entre eux se révèlent défectueux avant même que tous les bâtiments n'aient été construits. Malgré les alertes, le chantier se poursuit. À peine un an après l'inauguration de la Grande Borne, des centaines de logements sont déclarés insalubres en raison d'infiltrations d'eau. J'ajoute encore un ou deux renseignements et après je vous cède la parole. Donc en 1967, dans un endroit qui était consacré à l'agriculture industrielle et dans lequel vivaient 3000 personnes, on construit en 67 la Grande Borne, 3981 logements. C'est terminé en 1971, donc on change d'échelle. En 1969, on construit l'inverse de la Grande Borne, Grigny 2, c'est-à-dire une cité pour des cadres moyens et supérieurs en copropriété et dans lequel il y a un centre commercial et une gare. Et une gare dont on va beaucoup parler dans le livre, parce qu'elle est très étrange, parce que quand les gens aboutissent là, ils ont un sentiment d'être dans un endroit très bizarre quand ils sortent de la gare. En 1974, on construit une mairie, et en 2002, un commissariat. Actuellement, il n'y a plus de poste, la poste est fermée. À vous, qu'est-ce que vous pensez de cette présentation ?
Merci beaucoup, c'est une présentation qui plante bien le décor, je dirais. C'est vrai que Grigny, la ville de Grigny, alors que d'après les statistiques, on considère aujourd'hui comme étant la ville la plus pauvre de France, ou l'une des, il y a aussi Roubaix, enfin voilà, c'est une ville qui paraît emblématique des quartiers populaires et d'un certain nombre de problématiques en fait, qui s'y concentrent aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on connaît assez bien ce quartier de la Grande Borne, dont on parle beaucoup aussi, parce que c'est un quartier de grands ensembles, mais avec des immeubles qui sont assez particuliers. Il y a Orly qui est pas loin, vous l'avez dit. Après la Grande Borne, il y a Grigny 2 qui est construit, qui vise a priori une clientèle de classe moyenne supérieure qui serait liée à l'aéroport d'Orly. Et la proximité d'Orly fait aussi qu'il y a une servitude à cause de radars en fait, aériens qui s'imposent à Émile Ayot et qui fait que du coup les immeubles de la Grande Borne sont bas. Ils ne font que quelques étages et en plus ils ont une forme de spaghetti. Émile Ayot avait imaginé une cité des enfants où on pourrait se perdre, qui reproduit un peu l'esprit d'un village. Et Grigny 2, vous l'avez dit, c'est complètement l'inverse. C'est au contraire des grandes tours très élevées, 15 étages, qui offre une vue panoramique sur la région parisienne et sur Paris, en fait, assez magnifique dans les derniers étages. C'est ça se voulait être une réplique de Parly 2, Parly 2 qui avait été construit par le même promoteur, hein, de Balkany, dans les Yvelines, près de Versailles, près du Chesnay. Et Parly 2, en fait, ça s'appelle Parly 2 parce qu'au départ, ça devait être Parly 2. Donc on voit bien le projet assez mégalo qui se joue derrière ça. Parly 2, plus grande copropriété d'Europe, faire la même chose à Grigny. Et ces deux donc projets de grands ensembles qui sont imposés à la ville de Grigny par l'État donc au tournant des années 60-70, dans un contexte où il faut répondre à ce qu'on appelle à l'époque la crise du mal-logement. C'est vrai qu'il pose dès le départ la problématique de cette ville où donc on a enquêté avec mon collègue Fabien Truong pendant 10 ans, parce qu'effectivement cette ville, alors dans le livre on remonte aussi, on reprend toute l'histoire, hein, de cette bourgade aux confins de la région parisienne qui d'abord est une terre d'exploitation agricole et puis dont on va ensuite extraire la pierre meulière. Il y a les entreprises Piketty qui s'installent ici et qui
donc le grand-père de Thomas Piketty,
voilà, de la famille de l'économiste Thomas Piketty qui s'installe là, donc le grand-père a été effectivement un des maires de Grigny et qui s'installe là, qui exploite des terres de Grigny, la pierre meulière avec laquelle on va construire notamment les tunnels du métro parisien, l'aqueduc du Loing qui encore aujourd'hui permet d'approvisionner en eau potable en eau courante la ville de Paris. Et ensuite, sur ces terres, qui ont d'abord été donc des terres agricoles, ensuite des terres exploitées pour leur sous-sol, sont construits ces grands ensembles qui font passer la bourgade de Grigny, 3000 âmes, à tout d'un coup 30 000. Donc c'est un bouleversement qui est majeur, qui va déstabiliser les finances de la commune, dont la commune va mettre des années à se remettre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, le décor est planté, et c'est ensuite voilà, ce qui nous fait arriver à Grigny, donc il y a 10 ans, en 2015, très exactement le 13 novembre 2015, c'est qu'un enfant de la ville qui a grandi là finit par commettre des attentats. C'est l'un des terroristes de janvier 2015, Amélie Coulibaly. Et donc, quelque part, notre enquête vise à connecter ce point d'histoire très récente, contemporaine, voilà, un des terroristes de janvier 2015 issu de cette ville, avec cette histoire longue de la ville de Grigny et de ses habitants et habitantes.
Et donc on a une ville qui pour moitié est construite avec des étrangers de départ. Quoi.
Oui, et d'ailleurs l'expression même de Grignois, le terme par lequel on désigne aujourd'hui couramment les habitants de la ville, renvoie à ça. C'est-à-dire qu'auparavant, les habitants de Grigny, on les appelait les Grignards. Et donc aujourd'hui, ça reste le terme qu'on emploie pour désigner les anciens, ceux qui étaient là dans ce qui était en fait auparavant un village. Et donc il y a encore aujourd'hui, on en parle dans le livre, quelques descendants de Grignard, certains qui voilà, conservent une maison de famille par exemple, et qui ont décidé de rester à Grigny malgré toutes les problématiques qui s'y concentrent et qui peuvent y rendre la vie difficile. Et à partir du moment où donc ces deux grands ensembles sont imposés à la commune dans les années 60, donc au tournant des années 60-70, c'est parmi les derniers grands ensembles à être construits. Et puis donc, j'y insiste, hein, en plus deux grands ensembles très emblématiques, très différents, c'est-à-dire d'un côté un grand ensemble de HLM, parc social, et de l'autre un grand ensemble de copropriétés privées qui va se dégrader. Mais on est vraiment sur deux cas emblématiques, à rebours l'un de l'autre quelque part, et avec une dynamique entre l'un et l'autre aussi qui est très intéressante à étudier, parce que aujourd'hui finalement la Grande Borne apparaît comme étant le quartier un peu, on va dire, le plus agréable, un esprit de village, une ambiance de village, malgré bon, les difficultés qu'on y rencontre aussi. Grigny 2, la copropriété qui se voulait destinée aux classes moyennes et supérieures, s'est paupérisée, s'est enferrée dans une spirale de paupérisation, de dégradation du bâti, malgré des plans de rénovation urbaine. Et donc aujourd'hui, c'est un quartier dans lequel il y a beaucoup d'appartements qui sont... Alors la municipalité lutte contre ça autant qu'elle le peut, avec l'aide de l'État aujourd'hui, il y a un plan de restructuration de la copropriété, Mais fondamentalement, c'est une copropriété dans laquelle beaucoup de ces grands appartements, qui étaient au départ destinés à des familles donc plutôt aisées, sont aujourd'hui loués à la découpe par des propriétaires qui, en fait, sont des marchands de sommeil, louent à des familles des petites pièces. Donc on peut se retrouver dans un même appartement avec des pièces uniquement séparées voilà, par des simples cloisons, voire rideaux, plusieurs familles de types différents qui cohabitent. Et pour des et donc en fait un quartier comme celui de Grigny 2 aujourd'hui est une porte d'entrée dans l'Île-de-France pour notamment des migrants qui peuvent arriver, notamment des sans-papiers, mais pas que, qui arrivent là, voilà, et qui cherchent à s'y loger à moindre coût pour prendre pied le temps de le temps de pouvoir aussi trouver un travail, de pouvoir trouver un revenu. C'est aussi pour ça, on s'en est bien rendu compte au moment de la pandémie de Covid-19, que se concentre dans une ville comme Grigny, énormément de travailleurs essentiels, de personnes qui voilà, sont alors, les personnes qui nettoient les bureaux, font des ménages, ramassent les poubelles, sont commis dans les cuisines, livrent des colis, etc. Les aides-soignantes aussi, et qui en fait sont concentrées dans ces quartiers-là et en même temps restent hyper connectées. Avec du coup, parce qu'un centre-ville urbain comme celui de Paris fonctionne fondamentalement grâce à ces personnes qui vivent à Grigny, donc à rebours aussi de quartiers qu'on tend à désigner parfois dans les discours médiatiques comme étant des ghettos refermés sur eux-mêmes, qui seraient en proie à des formes de séparatisme. Là, on s'est vite rendu compte au fait qu'on est sur des territoires qui restent en fait, bien qu'étant périphériques, profondément connectés avec le centre. Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement, au départ, ces grands ensembles, ils sont créés à Grigny pour loger des gens qu'on chasse du centre de la ville, voilà, parce que dans le cadre de rénovation urbaine, on envoie ces indésirables aux marges de la ville, et en même temps, ces indésirables ont toujours été, c'était une problématique depuis le départ d'ailleurs, hein, sont restés connectés pour des raisons économiques, capitalistes, au centre, et donc c'est une problématique dès le départ, parce que les personnes qu'on envoie dans ces grands ensembles ont besoin de pouvoir venir travailler à Paris pour beaucoup d'entre elles. Et au départ, en fait, il n'y a aucun des services qui sont annoncés. Les immeubles sont construits, les habitations sont construites plus rapidement que la gare de RER, par exemple, qui n'arrive qu'en 1974. Et donc, les premiers Grignois, ceux qui se sont installés là au tout début, racontent comment... Alors, ils sont rares, hein, parce que beaucoup d'entre eux, depuis, sont partis, certains sont maintenant décédés, sont très âgés, mais certains, quand on est arrivé là, il y a 10 ans, nous racontaient, voilà, les premiers temps, où, en fait, il leur fallait marcher une heure, ou prendre le bus pour aller jusqu'à la gare de Ris-Orangis, et le trajet pour aller à Paris était tout sauf évident, et donc il s'est simplifié à partir du moment où la gare de RER est arrivée, et la gare de RER de Grigny reste aujourd'hui l'une de celles qui est le plus fréquentée de la région parisienne, et donc l'hyperconnexion, elle est massive, et elle va dans les deux sens, c'est ce qu'on explique aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui vivent à Grigny et qui vont travailler ailleurs. Alors, le taux de chômage est très important à Grigny, mais il y a très peu de personnes qui travaillent à proximité, en fait. Il y a un bassin d'activité, mais qui crée des emplois qualifiés et qui ne correspond pas, en fait, à la main-d'œuvre qu'on trouve dans une ville comme Grigny, pour l'essentiel. Donc, les gens qui vivent là partent très tôt le matin pour aller travailler en prenant le RER ailleurs en Île-de-France. Et tandis que, donc, dans l'autre sens, on voit arriver aussi un peu plus tard ce qu'on appelle dans le livre les missionnaires, ceux qui sont les agents de l'État qui sont envoyés là pour faire fonctionner les services publics, l'éducation, qui travaillent dans les mairies aussi bien souvent, et qui souvent aussi font le choix de venir ici, parce que quand on est à Grigny, on est sur des territoires, on est dans un territoire où voilà, la notion de service public a encore véritablement un sens. Et donc on a aussi rencontré des gens à rebours tout un discours qui consisterait à présenter ces territoire, une fois encore, comme étant des ghettos où tout va mal, où la violence règne et on pourrait ne faire que vouloir partir, ce qui correspond à une partie de la réalité. Il y a aussi des gens qui font le choix de s'y installer, des gens qui font le choix de venir y travailler, qui préfèrent venir là plutôt que d'aller ailleurs parce que ça a du sens pour eux.
Et donc 40% des gens de Grigny sont là depuis de moins de 10 ans.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors oui, justement, ça, ce qui est très intéressant, c'est cette logique de flux qu'on décrit au début de la deuxième partie de notre livre. Cette logique de flux, elle a toujours été là. C'est-à-dire que d'abord, c'est ce qui connecte une ville comme Grigny au centre de Paris et en fait au reste du territoire, hein, parce qu'il y a aussi des logiques de flux qui font que des gens, comme je le disais, bon, on considère à Grigny que réussir, en fait, c'est partir. C'est ce que beaucoup de gens nous ont dit, souhaiter pour leurs enfants. On leur souhaite de partir, mais souvent, ils ne vont pas très loin. Ils vont à côté, dans une des communes, c'est Grigny, et l'une des villes qui essaiment le plus dans le département de l'Essonne et dans le reste de l'Île-de-France. Donc souvent, les gens s'installent juste à côté. Le fait d'avoir passé 10 ans dans la ville nous permet aussi de dépeindre ce genre de trajectoire. C'est-à-dire qu'on a vu des jeunes aussi arriver à l'âge où, avec leur premier salaire, ils peuvent s'installer, louer leur appartement à Ris-Orangis ou à Viry-Châtillon, enfin voilà, en se déplaçant un tout petit peu par rapport à Grigny. Et donc en fait, Grigny est une ville qui est vraiment de part en part façonnée par des flux, qui est tout sauf fixiste, si vous voulez. D'abord, des flux de biens agricoles, de pierres, des flux de personnes aussi dans un sens, avec donc ces mal logés du 13e arrondissement qu'on déporte, entre guillemets, et qu'on installe là. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a les flux alors de narcotrafic, parce que dans ce contexte où le chômage est endémique, où les jeunes sont peu qualifiés, il n'y a pas de lycée. Un quart simplement d'une génération de jeunes grignois obtient son bac, l'économie du narcotrafic trouve là une main d'œuvre qui est assez disponible, efficace, et sachant qu'en plus la situation même de Grigny 2, coupée, ça aussi il faut le dire, les deux quartiers sont assez distants l'un de l'autre, et la ville est coupée en deux par l'autoroute A6. Et l'autoroute A6, donc, elle offre, c'est un emplacement stratégique, du coup, pour le narcotrafic, puisque ça permet d'avoir des go-fast, donc ces trajets en voiture qui vont très très vite pour faire remonter la marchandise depuis le sud de l'Espagne, notamment. Et donc, on arrive très vite par l'autoroute A6, et boum, on sort tout de suite, on peut être à la Grande Borne ou à Grigny 2. De la même manière, on est très près d'Orly, et pareil, on est connecté à Orly par la nationale, l'autoroute, ça peut aller très vite. Et puis les consommateurs eux-mêmes peuvent arriver en voiture très rapidement depuis Paris, depuis les beaux quartiers parisiens, arriver par la 6 avec leur voiture, ou par le RER aussi. Et donc il y a ces flux, là encore, de biens, de drogue en l'occurrence, et les flux de personnes qui continuent à exister et qui font qu'effectivement, on a passé 10 ans dans la ville de Grigny, et il faut bien se dire que en 10 ans, la population d'une ville comme Grigny se renouvelle de plus de moitié. Voilà. Ce qui fait aussi que la ville de Grigny reste la ville la plus jeune de France, la plus jeune d'Île-de-France, parce que fondamentalement, en fait, quand on avance en âge dans une ville comme Grigny, quand je l'ai dit à l'instant, quand on commence à avoir ses premiers salaires, dès qu'on le peut, on va vivre ailleurs. Et rares sont ceux qui font le choix, souvent c'est un choix militant qui est pensé comme tel, d'y prendre leur retraite. Et ceux qui partent seront remplacés par d'autres. Et souvent, donc, on voit arriver là. Eh bien, des jeunes couples avec enfants qui ont fui des pays en guerre, qui ont fui des dictatures, qui viennent chercher là une vie meilleure. Et ça aussi, c'est l'histoire de Grigny, c'est-à-dire qu'à Grigny, il y a d'abord l'immigration italienne avec la famille Piketty pour exploiter la pierre Molière. Il y a ensuite des Portugais qui arrivent, des témoignages de gens qui arrivent pour les Portugais. Alors, certains Italiens restent après l'exploitation de la pierre Molière et participent au chantier de la Grande Borne, de Grigny 2, etc. Mais donc des Portugais arrivent ensuite, et puis après, pareil, pour contribuer au chantier, et restent là. L'actuel maire, Philippe Rio, par exemple, raconte être arrivé là, il avait quelques mois, et il est d'origine portugaise. Et ensuite, on a vague d'immigration maghrébine, et puis plus récemment, des immigrés qui arrivent alors de Turquie. Il y a un quartier de Grigny qui s'appelle les Tuileries, un des quartiers de Grigny 2, qui est surnommé aujourd'hui la Turquie. Comme on parlait auparavant.
C'est des Kurdes, donc.
Oui, voilà, comme on parlait exactement, comme on parlait avant, avec on peut avoir des tags sur les murs du PKK, et comme on parlait auparavant donc de Grigny comme d'une petite Italie, voilà, c'était pas la seule ville qu'on qualifiait de petite Italie à l'époque, et puis aujourd'hui, donc c'est essentiellement de l'immigration qui arrive d'Afrique subsaharienne, d'Afrique noire, et avec un pays comme le Mali, par exemple, et quelqu'un comme Amédi Coulibaly, donc, qui était originaire de Grigny et d'origine malienne, et un des personnages principaux aussi de notre livre, qui nous accueille qui nous accueille à Grigny le 13 novembre 2015, quand on vient rencontrer le collectif qui nous y amène, en fait. Le président de ce collectif est aussi un Malien. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, l'histoire de Grigny et de ces différentes vagues de population et de ce roulement permanent, avec des gens qui s'en vont et d'autres qui arrivent en permanence, c'est aussi une histoire de France.
Donc, nous sommes sur Aligre FM 93.1 « Dans la vie est un roman ». Et nous allons avoir une pause musicale.
T'as un truc inédit pour nous ?
Ouais.
Est-ce que t'as envie de nous faire quelque chose ?
Bah vas-y, y'a pas de soucis.
Enchaîne, mon frère, t'as un micro sur toi, la caméra elle est à toi. C'est ton cercle. Envoie, mon frère.
Direct, un freestyle, explosivité pour les DZ. Tête de mort, tête sauveur, chez nous c'est le carnage, l'enfer. Tête de mort, tête sauveur, chez nous c'est le carnage, l'enfer. Qu'est-ce t'as à faire, c'est la guerre civile. Garde ton missile pour 10 platines. Si tu vises la lune, tu auras Poutine. Dans les places de crime. La fraude, la pod, qu'est-ce que tu penses? C'est l'air de violence. J'ai la haine, on se take vengeance. Meurtre, alcool, délinquance. Condamnation, que sentence 213, que la puissance alpha spartiate, l'attaque défense, bang 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 bang, SOS, DRS, K47 dans le FES, SOS, DRS, K47 dans le FES, 1-3, garde la pêche, c'est cartel des Z-Power, c'est une guerre bomb game over, ta place sera sur une chaise de l'enfer, pour nous, pour l'affaire, la loi George Bush, qui est à Goun, sodomisé par 4 par groupe de genoux, 4 pattes au fond de troune. Qu'est-ce t'as à faire face Patagone? Qu'est-ce t'as à faire face Patagone? C'est eux qui contrôlent toutes les zones. SOS, DRS, K47 dans le FES. SOS, DRS, K47 dans le FES. هذه بلاد بلاد دولة اللي كلاتنا حقوقنا في وقت الثورة كيما قالها أبو مدين الله يرحم الشهداء وش نقول القايدر واحد كنت يري عليها ديديكاس بابلو سكوبار ان فري غونستير ان مونديال باري لندن ماراطان ولا كوك كلا كام مي فوك يو فوك لي دوان شفي ملا بو كل حلال شفيني ما فوا ام ماك لا فوا ان موت شيشا ان موت شيطان لي كلوندي ان فو بوندي اون فالي توس بيان 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 تايي برومي روغار دو بليدين كاو غوش دروات فيرتيكاو
Wallah, 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 t'es une rosta de fou. Eh, hey, t'es une rosta de fou. Ah, Mavic, bienvenue. Merci, chez nous, mon frère. T'es chez toi ici.
Y a pas de soucis.
Tu veux revenir dans le cercle?
Ça...
Si tu viens, tu viens tous les épisodes.
Ok, y a pas de soucis. Ça
Mavic,
plaisir.
Merci, t'es une bombe, mon frère. T'es une bombe, mon frère. Merci. Bravo, Islam. Bravo. S'il vous plaît, tous ceux qui sont derrière les caméras, on l'applaudit. S'il vous plaît.
Allez, tiens.
Et donc on vient d'entendre un morceau dont vous allez nous parler. Je suis avec Jérôme Truc et on parle de Grands Ensembles parus à la Découverte.
Oui, c'était un freestyle de Gazouza qui est devenu une sorte de qui est devenu une des célébrités. Il y a de nombreuses célébrités locales en fait à Grigny. On raconte aussi dans notre livre, hein, c'est-à-dire que on arrive là parce que bon, il y a Amédi Coulibaly qui commet ses attentats et ce qui donc a comme conséquence qu'il y a tout un discours très stigmatisant qui est redoublé à nouveau sur Grigny et qui blesse profondément les habitants, qui les blesse profondément parce qu'en fait, il y a déjà le passif. C'est... Ce discours, en fait, il se fiche dans les... Il prend forme et il devient complètement stéréotypé dans les années 90, avec en particulier un reportage dans Paris Match qui va faire beaucoup de mal, qui dépeint la cité de la Grande Borne comme une cité de la peur et qui est perçu vraiment comme infamant par les habitants. Et donc, en 2015... Le fait que tout d'un coup Mehdi Coulibaly se retrouve à la une des journaux pour la tuerie de l'hypercachère et pour donc c'est lui aussi qui tue Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Et d'ailleurs on signale dès le début du livre que ce qui est assez une coïncidence assez frappante quand même, la tante de Clarissa Jean-Philippe habitait elle-même à l'époque à Grigny et elle apprend que sa nièce a été tuée tandis qu'elle se trouve dans une réunion d'habitants et d'habitantes de Grigny qui est organisé suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Et donc, un collectif d'habitants se forme à Grigny en réaction à ce discours politique et médiatique, qui dépeint en gros Grigny comme étant un repère de terroristes ou pousse des herbes folles, enfin, sur le mode en fait de tout ça est finalement était tristement prévisible, la trajectoire de Mehdi Coulibaly serait emblématique d'une dégradation, d'une dérive de cette commune, et ça ne serait que finalement le début. D'autres pourraient suivre derrière, et donc un collectif d'habitants se forme pour tout simplement essayer de reprendre la parole face à ce discours stigmatisant et infamant. Les habitants, quand on arrive à Grigny, nous disent leur lassitude, leur profond agacement, qui finit par former du ressentiment. Hein. C'est pour ça que dans le sous-titre du livre, il y a violence, solidarité et ressentiment, parce que les trois sont profondément liés. Et quand on arrive, il y a une forme de ressentiment tourné vers les personnes qui tiennent ce discours, un ressentiment qui tient au fait d'être en permanence parlé, sans avoir... D'autres parlent à notre place, voilà. Et nous, on n'a jamais la parole, et quand on essaie de la prendre, on n'est pas entendu. Et ce qui fait que le collectif à cette idée de créer des murs de parole, tout simplement, en janvier 2015, après les attentats, pour permettre aux habitants de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que il y a une vertu cathartique à pouvoir, dans ce contexte où tout le monde parle de nous, et parle de nous en mal, pouvoir dire que ce qu'on a, nous, effectivement sur le cœur. Et c'est pour ça qu'ils nous appellent ensuite, parce qu'ils recueillent beaucoup de messages comme ça sur leur mur de parole, et ils ne savent pas trop quoi en faire, comment les analyser. Et... c'est pour ça aussi que du coup le livre est assez gros. Dans l'introduction, vous rappeliez qu'il fait 380 pages. C'est plus que ce qu'on avait imaginé au départ, parce qu'en fait, on a voulu aussi donner la parole, donner à lire ce que les gens ont pu nous dire en 10 ans d'aller et retour constant dans cette ville. Parce que je pense que c'est important aussi de dire comment on a enquêté dans cette ville. On n'y a pas vécu avec Fabien. Par contre, on y a fait des séjours, souvent de 2-3 jours, en dormant sur place, et on a fait notre enquête par des allers-retours comme ça, constants, avec des périodes plus intensives que d'autres, sans jamais complètement perdre le contact, évidemment. Il y a des moments où on pouvait y être toutes les semaines pendant plusieurs mois, il y a d'autres moments où on a pu y être. Alors, en plus, l'un et l'autre, on s'est réparti les tâches, donc il y a des moments où Fabien y était plus que moi, et inversement. Et donc, dans le livre, on donne à lire ce que les gens nous ont dit, ce que les gens nous ont raconté grâce à ces relations qu'on a pu nouer avec eux. Je relisais pas plus tard qu'hier soir un texte, d'ailleurs, ça m'y fait penser, de Gérard Noiriel, qui disait que quand on travaille dans d'autres milieux que ceux dans lesquels on vit, il est important en fait de s'inscrire dans le temps long pour tout simplement pouvoir se familiariser. Et il n'y a qu'à cette condition-là, la familiarisation avec le milieu, qu'on peut finir par récolter une parole qui est juste. Donc, de ce point de vue-là, la démarche est complètement à rebours de celle des journalistes qui, en 2015, comme dans les années 90, arrivent à Grigny, tout simplement avec une idée préconçue, faire un papier à charge, donc en 2015, pour montrer qu'à Grigny, les jeunes qui sont là sont des herbes folles, qui sont plus Coulibaly que Charlie. Voilà. Et donc, on arrive... On tend le micro, on pose 2-3 questions, on enregistre, on repart, il n'y a aucune familiarisation, on récupère des propos qui sont complètement sortis de leur contexte, auxquels on peut faire dire ce qu'on veut. Là, la démarche, elle est complètement inverse. C'est s'inscrire dans le temps long, le temps de nouer des relations, de manière à pouvoir recueillir des paroles, et à pouvoir resituer ces paroles dans leur contexte, qu'on s'efforce de faire dans le livre. Et donc, 10 ans d'enquête, ça permet aussi de dire, voilà, aujourd'hui, poser la question de qui est encore Charlie à Grigny, comme on pose encore la question régulièrement de qui est encore Charlie en France aujourd'hui, est une sorte de non-sens, parce qu'en fait, la population d'une ville comme Grigny, en 10 ans, a largement changé, elle s'est renouvelée plus de moitié. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent à Grigny pour qui ces événements sont des événements historiques, en fait, ont pas de sens. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas en France, ou ils étaient jeunes, ils étaient enfants. Donc quelqu'un qui a la vingtaine aujourd'hui, un jeune adulte, il avait 10 ans à l'époque, c'est quelque chose qui n'a pas forcément du sens pour lui. Et donc, voilà, on commence avec le livre avec la figure d'Amélie Coulibaly, mais on montre aussi qu'aujourd'hui, Grigny, c'est, alors, ben donc Gazouza, on en parlait, mais c'est aussi Golo et Richie, du quartier de la Grande Borne aussi, qui sont devenus des stars des réseaux sociaux, de TikTok,
et la sœur de Coulibaly, alors.
On parle aussi, effectivement, de Maïmouna Coulibaly, qui est alors l'une des des grandes figures de Grigny. C'est elle qui a inventé la boutithérapie, un concept de danse qui a eu un grand succès en France et au-delà en Europe, qui a fait le tour des plateaux télé, qui a été célèbre, je dirais, avant que son frère ne le soit funestement. Mais il y a aussi Ronisia, la star du R&B, qui remplit l'Accor Arena, qui est issu de Grigny. Il y a des joueurs de foot comme Paul George. Enfin, la liste des gens célèbres, Inès Reg par exemple, humoriste Inès Reg, qui fait actuellement une tournée dans toute la France, elle vient de Grigny. Donc en fait, voilà, Grigny, c'est tout ça aujourd'hui, c'est toutes ces figures-là. Et puis c'est Philippe Rio, un maire qui a été élu en 2021 meilleur maire du monde. Et souvent, on nous pose la question, mais comment est-ce que du coup, dans une ville qui est la ville la plus pauvre de France, où tout va si mal, où il y a autant de difficultés, comment est-ce que ce maire a pu être élu meilleur maire du monde? Et c'est justement parce que sa ville est la plus pauvre et que les difficultés ici s'y concentrent que fondamentalement, être maire là a quelque chose d'assez héroïque, et on dit ça, je dis ça de manière tout à fait sans je dirais jugement de valeur, hein. Il s'agit pas de c'est juste que pour l'avoir vu, pour l'avoir observé, c'est devoir faire face en permanence à des urgences. La deuxième partie de notre livre s'intitule Un état d'urgence permanent. Vivre dans une ville comme Grigny, c'est pour tous les habitants, fondamentalement, ne pas pouvoir se projeter, tout le temps devoir se débrouiller, s'entraider pour faire face aux difficultés. Le fait de vivre dans un quartier comme Grigny 2, où aujourd'hui beaucoup d'appartements sont, donc je le disais, loués à la découpe par des marchands de sommeil, ça implique que régulièrement des incendies s'y déclarent. Parce que en fait, les gens qui vivent là mettent des multiprises, branchent plusieurs frigos, et tout ça crée de la surcharge électrique et crée des incendies. Et donc régulièrement, les habitants de Grigny sont amenés à s'organiser, à s'entraider pour faire face à ce genre de crise-là. Il y a la crise des attentats qui nous fait venir en 2015, mais cette crise, elle ne fait que réactiver des solidarités qui ont déjà été forgées à l'épreuve de cet état d'urgence permanent. Et quelque part, le premier de tous ces premiers de cordée face à cet état d'urgence permanent, en l'occurrence dans une ville comme Grigny, c'est le maire.
Et donc il y a quelque chose qui est absolument désespérant dans votre livre, c'est le rapport des habitants avec la police. Interpellation arbitraire, délégitimation des adultes éducateurs et impossibilité d'opérer un distinguo entre les jeunes. Les modalités de l'action policière plongent certaines maires dans un profond désarroi. Sa mère qui cherche le contact avec la police au plus vite, mais aux yeux des policiers, quand une mère cherche le contact avec la police, ses réactions prennent l'allure d'une ruse. Plus ces derniers refusent les contacts directs avec la population, plus celle-ci se montre défensive et plus les comportements de la solidarité féminine sont interprétés comme preuve de collusion communautaire, sous forme de contamination de l'ensemble de la population par la minorité délinquante. Interprétation qui va jusqu'à contrecarrer l'empathie que l'on serait en droit d'attendre d'un semblable. Il y avait un black donc dans les policiers, c'est ça, oui. Et donc ça, c'est terrifiant, le truc des motos, là, quand ils font de l'apprentissage de moto. Mais ils ne jouent pas du tout le jeu. Donc moi, j'ai une petite expérience comme ça en banlieue. Et on pouvait encore communiquer avec la police. Et c'était les socialistes qui étaient au pouvoir quand j'y étais.
Donc, dans les années 80.
Dans les années 80, ils avaient des chefs. Donc si le type n'était pas bien, on pouvait aller voir son chef et il pouvait avoir une réprimande. Et là, c'est plus possible. Ce que vous décrivez, c'est des tours avec des hélicoptères qui tournent autour et des flics qui n'ont qu'une fonction répressive. Jamais. Et en fait, c'est quand même une mère qui vient voir un flic pour lui parler de son fils.
Tout à fait.
Et le type, il pense que c'est une ruse pour lui faire les poches, pour je sais pas quoi, pour le baiser.
Tout à fait, on est dans le cas, c'est une des nombreuses histoires qu'on rapporte dans le livre, des nombreux témoignages qu'on peut y trouver, du maman dont le garçon est un très bon élève, il n'y a aucun problème, il lui arrive, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est dans le droit chemin, et il sort de son stage, et il se fait arrêter pour un contrôle d'identité, comme ça arrive souvent dans ce quartier-là, tout particulièrement aux jeunes garçons qui sont noirs, et là il a en plus... Et donc, en fait, bon, voilà, il se trouve qu'il est, qui se fait arrêter parce que les policiers recherchent à ce moment-là un jeune pour trafic de drogue, comme ils le font très souvent dans ce quartier, et ils le confondent avec lui, et lui essaie tout de suite de se justifier. Il n'a pas ses papiers d'identité sur lui, parce que c'est une erreur qu'il commet, il le reconnaît, mais il dit, vous pouvez demander, je sors de mon stage, je ne suis pas celui que vous croyez, etc. Et tout ça, et en fait, il ne le croit pas, très vite, ça s'envenime. Et donc effectivement, la mère nous rapporte ensuite comment elle intervient pour récupérer son fils, elle demande à voir les policiers pour discuter avec eux, etc. Et donc c'est un des nombreux témoignages qu'on rapporte comme d'autres qui, de ce point de vue-là, en fait, montre comment, je disais tout à l'heure, l'histoire de Grigny, c'est une histoire de France. On a un livre où on a passé 10 ans dans une même ville, c'est ce qu'on appelle une monographie. Mais en même temps, l'intitulé du livre, c'est « Grand ensemble, violence, solidarité, ressentiment dans les quartiers populaires ». Le nom de la commune de Grigny apparaît pas dans le titre et le sous-titre du livre, parce que faire l'histoire de Grigny, c'est faire une histoire de France, faire la sociologie de Grigny, c'est aussi faire une sociologie de la France contemporaine. Ce dont on parle là, en ce qui concerne la police, en fait, et sont des choses qui ont déjà été bien documentées par d'autres chercheurs, sociologues, anthropologues, comme Fabien Jobard, Didier Fassin, par exemple, dans La Force de l'Ordre. On ne fait là que retrouver, sur ce plan-là comme sur d'autres, hein, des choses qui traversent l'ensemble de notre société. C'est-à-dire que là, très concrètement, c'est pareil, vous le rappeliez, on a un commissariat à Grigny, qui est construit au début des années 2000, et sauf qu'en fait, juste après son inauguration, on a un choix politique qui est fait, qui consiste à mettre fin à la police de proximité.
Et il est ouvert que le vendredi, le commissariat.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ce commissariat a quasiment jamais véritablement servi. Aujourd'hui, à côté de la grille, il y a une plaque qui indique, alors il y a marqué horaire d'ouverture, et puis en fait, tout est laissé en blanc, il y a juste un petit autocollant qui indique qu'il est ouvert le vendredi entre 13h et 16h, voilà.
C'est incroyable.
Donc, dans une ville où, par ailleurs, donc, les gens sont encore très pauvres, et où donc le taux de motorisation est très faible, il suffit d'imaginer, là on a beaucoup aussi...
Comment on fait pour porter plainte s'il nous arrive quelque chose ?
Voilà, on a aussi un taux très élevé de familles monoparentales, de femmes qui vivent seules avec leurs enfants, on a des problématiques ici comme ailleurs aussi évidemment de violence conjugale, de violence patriarcale, on y consacre un chapitre à cette violence des hommes, et donc... Effectivement, quand on est une femme qui vit à Grigny, qu'on voudrait porter plainte pour violence conjugale, qu'on n'a pas de voiture, en fait, on ne peut pas aller. Le commissariat, on pourrait éventuellement aller à pied, est ouvert 3 heures par semaine et encore. Et donc oui, ce qu'on dépeint là est juste la conséquence 10, 20 ans après de décisions politiques qui ont été prises, de mettre fin à la police de proximité, et donc d'avoir une police qui, dans un rapport purement vertical au quartier, et ce qui aboutit, et Didier Fassin le décrivait déjà avant nous, à ce que les gens qui interviennent là, les forces de l'ordre qui interviennent dans ces quartiers, ont une vision complètement homogénéisante du quartier, ils mettent littéralement tout le monde dans le même sac, les jeunes mais aussi leurs parents, on est dans un rapport de défiance totale.
C'est une armée étrangère.
Et donc on raconte comment est-ce que, à la suite d'un autre contrôle d'identité, d'une autre interpellation qui tourne mal lui aussi, comment est-ce qu'une mère, elle, au lieu d'ébruiter l'affaire, parce que bon, il s'avère que donc, sans déflorer trop le contenu du livre, là on est sur un contrôle, enfin une interpellation où un jeune se retrouve mis au sol, prend des coups, alors même que donc c'est pas celui qu'on recherchait, et que surtout lui a une tumeur au cerveau, et que le lendemain il devait subir une opération pour la résorber, et donc il en a gardé des séquelles profondes de ces coups qu'il s'est pris, notamment à la tête tandis qu'il était au sol. Donc l'affaire est indéfendable pour la police, qui commet là une bavure. La mère aurait pu vouloir scandaliser, créer un scandale à partir de ça, en créer un scandale public, et elle fait le choix inverse, qui est de faire taire, de limiter le plus possible. Elle commande, par exemple, à l'ami qui accompagnait son fils au moment de cette interpellation de n'en parler à personne, surtout pas aux journalistes, parce qu'elle voudrait, à partir de ça, essayer de mettre en place, de renouer le dialogue avec la police. Et donc, on raconte ce rendez-vous manqué avec la police, parce que l'initiative vient des maires. Alors ça, c'est intéressant, on pourrait y revenir aussi, parce que... Je disais qu'on a un chapitre entier qui est consacré à la violence viriliste, parce que finalement, les femmes dans ces quartiers, on s'est rendu compte que ce sont les femmes qui prennent soin du quartier, qui font qu'ils tiennent, qui sont au cœur des solidarités, de cette entraide qui se noue au quotidien et qui font qu'on arrive à tenir face aux crises, face à l'urgence permanente. Mais les femmes, fondamentalement, du coup, ne peuvent pas faire appel à la police quand elles sont elles-mêmes violentées. Donc elles sont prises en tenaille entre la violence de leurs hommes et la violence, qui est une autre forme de violence masculine, qui est celle des policiers. Et donc, on a vraiment des quartiers qui vivent sous cette chape de plomb de la violence viriliste, et qui est une sorte de point commun, d'ailleurs, du coup, entre les jeunes hommes qui sont liés, mêlés au narcotrafic, et les policiers qui sont étrangers au quartier, qui arrivent dans des logiques verticales pour faire des raids sur les points de deal. Mais en fait, donc, les femmes sont vraiment celles qui, donc là, en l'occurrence, font tampon, font en sorte que le quartier puisse tenir, et elles sont obligées de s'organiser entre elles pour faire face, sans la police, face à la violence de leurs hommes, leurs pères, leurs fils aussi parfois, leurs maris, et donc par exemple, quand je disais leurs pères là à l'instant, c'est que on a aussi des jeunes filles qui du coup apprennent à développer des techniques pour éviter des mariages forcés, pour pouvoir sortir de cette oppression que crée le quartier sur leur trajectoire. C'est très très important. Et donc sur la, pour en revenir à cette histoire que j'étais en train de relater, de cette mère qui, à la suite de l'interpellation de son fils, cherche à nouer un dialogue avec la police, ce qui est assez frappant, emblématique, c'est que très vite, les policiers demandent à rencontrer les pères. Ils ne considèrent pas les mères comme des interlocutrices légitimes. Donc on voit bien là la dimension, la force du patriarcat dans les rapports de la population de la police à la population. Et en fait, très vite, le dialogue tourne court. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les policiers ne comprennent pas en fait les demandes des parents, qui perçoivent qu'une remise en cause du bien fondé de leur travail, ils considèrent que voilà, on est vraiment avec des policiers là qui considèrent qu'il n'est pas de leur de devoir en fait d'être auprès de la population et de faire un travail de médiation. Ils se considèrent pas comme étant des travailleurs sociaux. Et d'ailleurs, on raconte aussi dans le livre comment est-ce qu'ils ont beaucoup de mépris pour les travailleurs sociaux, dont ils peuvent tout à fait briser le statut symbolique là aussi lors d'interpellation de certains dans l'exercice de leur fonction, donc, quand ils sont avec des jeunes. Et de l'autre côté, les parents, évidemment, se retrouvent, n'acceptent pas le fait que les policiers leur disent « Mais en gros, dites-nous qui sont, voilà, on cherche tel, un tel, un tel et un tel. Si vous voulez pas, si vous nous dites qu'il n'y a pas une collusion de l'ensemble du quartier pour les protéger, alors dites-nous où ils sont, qu'on aille les chercher. » Ils demandent en gros aux parents de jouer un rôle de balance. Et donc, la mécompréhension est totale. Et donc, l'expérience tourne court de manière assez dramatique, de manière assez tragique, voilà. Mais cette anecdote tragique, elle est assez emblématique de cette évolution, voilà, qui ne fait encore pas du tout propre à Grigny, et qui a son histoire longue. Une fois encore, ça remonte à des choses qui sont bien documentées, qui ont été bien documentées par d'autres collègues. Et c'est pareil pour le patriarcat. Ce qu'on montre donc dans les différents chapitres de notre livre, c'est que ce qu'on observe à Grigny est tout à fait emblématique de ce qu'on peut voir dans d'autres quartiers populaires et en fait d'une manière générale dans l'ensemble de notre société. Et les choses peuvent se concentrer dans une ville comme Grigny, mais n'y sont absolument pas spécifiques.
Mais l'intérêt de votre description, c'est la description elle-même. Et vous avez la troisième partie s'appelle Chasse croisée. Et il y a de la Shoah à Gaza un sous-chapitre. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est assez oui. Vu l'actualité, on est avec une dame juive qui se fait traiter d'antisémite.
Tout à fait, et qui est là aussi parmi les personnages principaux du livre, qui est là dès le début quand on arrive, qui fait partie de ce collectif d'habitants que j'évoquais, qui se forme en réaction aux attentats et qui nous accueille, qui nous fait venir à Grigny et qui nous y accueille. Parce que oui, le fait d'être resté 10 ans dans la ville de Grigny nous a amené finalement comme une sorte d'évidence à cette troisième partie où en fait l'idée c'est de suivre les individus au gré de leur trajectoire. On le disait, Grigny est une ville où donc en 10 ans plus de la moitié de la population se renouvelle, donc ça veut dire que certains s'en vont Et puis d'autres arrivent, et au milieu, certains restent. Et donc, le cheminement du livre est le suivant. C'est-à-dire qu'on commence par la situation de crise couvre la violence terroriste en 2015, ce qui nous fait arriver. Et donc, on décrit ce que ça implique dans une ville comme Grigny et comment le vivent les habitants. Ce qui veut dire aussi qu'à un rebours de tout un discours qui a été très prégnant à l'époque, avec notamment le livre d'Emmanuel Todd, qui est Charlie, qui aurait voulu que les quartiers populaires se tiennent en marge de la communauté de deuil, de l'élan de solidarité qui s'était créé à l'époque, à l'épreuve des attentats de janvier 2015, n'ait pas été Charlie. Là, on montre comment, dans ces quartiers-là, les gens sont vraiment Charlie aussi. Une fois encore, la tante de Clarissa Jean-Philippe, elle apprend le décès de sa nièce dans une réunion organisée par des habitants dès le lendemain du premier attentat du 7 janvier 2015 à la rédaction de Charlie Hebdo, et il n'y a pas eu des réunions organisées comme ça dans toutes les villes de France. Quand on arrive le 13 novembre 2015, on est frappé, en fait, parce que quelques jours après, il y a cet appel à pavoiser par notre président de la République, François Hollande, donc appel à mettre des drapeaux aux fenêtres en hommage aux victimes, et on se rend vite compte qu'en fait, il y a énormément de drapeaux aux fenêtres et aux balcons, en particulier dans un quartier comme Grigny 2. On en voit plus là, finalement, que dans d'autres villes de banlieue, où on est amené à passer à l'époque aussi, comme Vincennes ou Saint-Germain-en-Laye, pour prendre des exemples de communes beaucoup plus bourgeoises, ou dans d'autres quartiers de Paris intramuros, des arrondissements de Paris intramuros. Donc on part de là, on se rend compte que cette expérience de la violence terroriste, en fait, elle vient exacerber en fait une violence structurelle qui pèse sur la vie des habitants dans une ville comme Grigny, qui régit leur vie, en fait, et donc c'est cet état d'urgence permanent que j'évoquais. Et puis on en vient donc dans ce dernier mouvement, parce qu'on a passé là 10 ans et qu'on a vu les gens, on les suit pendant un bout de vie, on en a vu un certain nombre partir. Certains qui étaient là pour nous accueillir au début, ben en fait, effectivement, plus de la moitié d'entre eux, plus de la moitié des personnes qu'on rencontre au début de notre enquête, en fait, ne sont plus là à la fin. Alors certains, sont trop âgés maintenant. Un de nos personnages principaux aussi, aujourd'hui, est à l'EHPAD. Mais certains ont déménagé, sont là sans être là, reviennent de temps en temps. Mais
il y a un Indien dans vos contacts.
Oui, effectivement. Toutes les, en fait,
avec une pratique religieuse indienne, etc.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Notre enquête, de ce point de vue-là, est assez emblématique aussi des différentes communautés qui coexistent dans une ville comme Grigny. Et donc, ouais, c'est ça aussi l'intérêt de cette partie chassée croisée, c'est de voir comment est-ce que tous ces flux de population font que là, dans une ville comme Grigny, concrètement, l'expression vivre ensemble, elle a un sens.
Et enfin, donc, il y a un côté ethnologique, par exemple, il y a une hiérarchie entre les Maliens. Il y a des Maliens nobles et des Maliens manants.
Ce qui nous amène aussi, effectivement, à remettre en cause, à remettre en perspective, je dirais plus exactement, la question du racisme et des discriminations. Parce que on peut avoir une vision très, je dirais, simpliste, consistant à dire que les habitants de banlieue, parce qu'ils sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, dans une ville comme Grigny, racisés, subissent le racisme comme étant un racisme venant de l'extérieur. Bon. Et donc, les choses sont, quand on passe du temps dans une ville comme Grigny, on se rend compte que les choses sont plus complexes que ça. En fait, on renvoie là aussi, c'est pas des choses qu'on découvre tout d'un coup, mais c'est des choses qui ont déjà été analysées, par exemple, par Elias et Scottson dans leur étude sur logique de l'exclusion. Là, on retrouve ça avec effectivement des phénomènes de dénigrement, de discrimination, mais qui relèvent de l'infrasociologique aussi, qui est arrivé en dernier. C'est pour ça qu'on a une section dans cette partie chassée croisée qui s'appelle l'inculture du dernier arrivé. Une manière aussi de montrer qu'on est bien en place, que c'est une manière de montrer qu'on est intégré, passe aussi par le dénigrement de ceux qui sont arrivés après nous. Bon. Et ces différentes vagues d'arrivées, elles peuvent se lire aussi sur la peau, sur l'épiderme, en fait. Puisque, je le disais, l'histoire d'une ville comme Grigny, c'est aussi une histoire de la France et de ses différentes vagues migratoires. C'est quand même très intéressant de voir qu'une ville comme Grigny, aujourd'hui, mais finalement, elle est beaucoup plus emblématique de la composition de la population française que n'importe quel quartier bourgeois. J'évoquais Vincennes, Saint-Germain-en-Laye, ou on pourrait dire le 16e arrondissement. C'est beaucoup moins mixte socialement, on y observe beaucoup moins de mixité sociale. La population, en termes d'épiderme, y est beaucoup plus homogène qu'aujourd'hui une ville comme Grigny, où effectivement, et donc notre livre le montre, on peut avoir à la fois, alors vous l'évoquiez, une juive polonaise, militante communiste, arrivée là parmi les tout premiers grignois. Et puis, une catholique pratiquante, pied noir, arrivée en France, rapatriée d'Algérie avec ses parents quand elle a été lycéenne. Et puis aussi, donc, effectivement, un tamoul, un malien, des maghrébins, et tout ça, en fait...
Et des divisions entre les maliens, c'est là que ça devient intéressant.
Et alors, des divisions entre ces différents... C'est ça qui est, en fait, qui est très intéressant avec notre point d'entrée 2015, crise ouverte par les attentats, c'est que le collectif qui nous fait arriver est un collectif où se retrouvent tous ces gens-là. Et ils se retrouvent à la faveur de la crise qu'ouvre les attentats. Ils se disent, c'est plus possible, comment on a pu en arriver là, il faut qu'on renoue. Et parce qu'effectivement, alors on explique aussi qu'une certaine forme de morphologie sociale, hein, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire que la façon dont la ville est bâtie, le fait que ait été imposé à Grigny 2 deux quartiers très distants l'un de l'autre,
avec une autoroute au milieu.
Une autoroute au milieu, etc., fait aussi que du coup il n'y a pas de cœur de ville, c'est un des grands enjeux, un des grands projets de la municipalité depuis les années 90 et il commence tout juste à émerger. Mais donc bref, on manque d'espace public, on n'a pas vraiment de café où se retrouver, et donc en fait les gens vivent un peu chacun dans leur coin, quelque part.
Ça m'a beaucoup surpris aussi qu'il n'y ait pas de terrasse, pas de café.
Donc c'est pour ça, on a un chapitre qui s'intitule « Des vies cloisonnées », point d'interrogation, parce qu'on est dans un contexte où effectivement c'est difficile de se rencontrer
et d'être
ensemble.
Donc il n'y a pas de PMU ?
Donc il y en a un,
comme
voilà,
partout.
Et pour 30 000 habitants.
Et c'est quoi les 4-5 voitures brûlées par nuit ? Ça existe vraiment ?
Non, c'est pas, ouais. C'est, y en a, mais de la même manière, il y a des voitures qui peuvent être brûlées, il y a des carcasses de voitures aussi, parce qu'il y a aussi une autre problématique, c'est une des dimensions du trafic, on a parlé des narcotrafics, mais il y a aussi tout plein d'autres formes de trafic dans ce contexte où on doit se débrouiller face à l'état d'urgence permanent. Donc il y a aussi le trafic de garages, de pièces automobiles sur le parking. Alors, en gros, en face du parvis de la gare de RER, du parvis de la gare de RER, il y avait... Il y a un centre commercial qui aujourd'hui est désaffecté et un parking lié à ce centre commercial. Tout ça est voué d'ici quelques années probablement, normalement, à être détruit. Et mais sur ce parking aujourd'hui et alentour dans d'autres parkings, à la Grande Borne c'est le cas aussi, on a des voitures qui sont réparées par des garagistes à la sauvette, sans papier. Donc il y a différentes formes de trafic et donc certaines de ces voitures là aussi peuvent parfois être brûlées, mais il y a aussi des on le raconte, hein, ces hélicoptères que vous évoquiez de police, c'est des hélicoptères qui tournent autour des tours de Grigny 2 l'été, notamment quand on a des jeunes qui en partie aussi par désœuvrement, par ennui et qui se filment en même temps sur les réseaux sociaux, brûlent des containers à poubelles pour attirer là des pompiers, des policiers. Et pour... C'est aussi des jeux du chat et de la souris, dans cette logique viriliste en fait.
Et on a beaucoup de ventes à la sauvette aussi dans les rues.
Et il y a aussi des ventes à la sauvette qui sont aussi difficiles à éradiquer que le narcotrafic, parce que voilà, en fait, les mêmes causes ne cessent de produire les mêmes effets. Donc même si on peut intervenir ponctuellement pour saisir des brochettes, pour saisir des articles qui sont vendus là à la sauvette, comme on peut intervenir ponctuellement pour fermer un four, bah les trafics renaissent quelques jours après ailleurs sous d'autres formes. C'est vraiment un cycle sans fin. Et donc, pour en revenir à ce qu'on disait sur la problématique même du vivre ensemble dans une ville comme Grigny, elle a un sens très concret. C'est-à-dire qu'on a donc effectivement une population faite de différentes communautés avec différentes origines, qui ont souvent en commun d'avoir éprouvé la violence, soit dans leur pays d'origine, soit dans les trajectoires migratoires, soit ensuite en arrivant en France. Et ce qui nous fait dire d'ailleurs dans le livre qu'au bout du compte, s'il y a une chose qui unit toutes ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle, en reprenant là aussi, on n'invente rien, on reprend cette notion au sociologue états-unien Webb Du Bois, une conscience dédoublée. Webb Du Bois en parlait pour, c'est un terme qu'il avait forgé pour analyser la condition des Noirs aux États-Unis, c'est-à-dire en fait, ce savoir être un spectacle, être en permanence... scruté par les autres, être un spectacle et se savoir être un spectacle. Et ça, en fait, ça s'applique très fortement aujourd'hui aux habitants d'une ville comme Grigny, parce que cette chronique médiatique permanente de la banlieue et des faits divers en banlieue font que les gens qui vivent là, donc une fois encore en étant confrontés à des difficultés qui sont beaucoup plus concentrées qu'ils peuvent l'être ailleurs, font face à ces difficultés-là, mais tout en sachant que en fait, ils sont en permanence épiés par le reste du pays qui ne cesse de suivre la chronique médiatique des faits divers dans ces quartiers-là et du discours stigmatisant qui va avec.
En même temps, il y a 800 agents municipaux et des petits déjeuners gratuits à l'école maternelle qui ont une fonction fondamentale.
Qui est précisément l'une des mesures qui a été mise en place par Philippe Rio à la suite de la pandémie de Covid. À la suite de la pandémie de Covid, parce que beaucoup de parents, tout d'un coup, se sont retrouvés du jour au lendemain à ne plus avoir de travail, plus avoir de revenus. Et donc, des enfants n'avaient plus de quoi manger. Les enseignants l'ont constaté. De la même manière que le nombre de sans-papiers qu'on peut avoir dans un quartier comme Grigny 2, qui sont logés là, donc par des marchands de sommeil, font que la mairie n'a pu que constater une surpopulation des écoles et essayer de faire ce qu'elle pouvait pour y faire face. Bon. Et donc, effectivement, dans une ville comme Grigny, là, plus que jamais, les pouvoirs publics, la municipalité, a un rôle absolument essentiel à jouer pour faire face, pour aider les habitants à faire face à leurs difficultés au quotidien. Et donc très concrètement, très prosaïquement, ça peut être ce genre de choses, permettre aux enfants d'avoir une petite collation le matin.
Et donc oui, nous sommes en fin d'émission et j'en profite pour remercier les techniciens. C'est Fraem, famille, Matin, Jalali et Lucas. Merci à vous d'avoir assuré la technique de l'autre côté de la vitre. Et merci à Jérôme Truc qui nous a parlé de grands ensembles.
Merci à vous.
Nous entendons là le générique de fin et à mardi prochain.
Écoutez Aligre FM 93.1.